suivi Dylan in the Wind. J'en ai usé des 501 au blues de l'Highway 61. T'as déjà oublié Sitting Bull. America, tu perds la boule. Mais tu es. Qu'est-ce qu'il en reste? Des promesses, mais du nuès, qu'est-ce qu'il en reste, mais du nuès, de tes caresses.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, numéro du studio 01 43 71 89 40. Et c'est Jazz Libre, votre rendez-vous bimensuel avec le jazz, en direct des studios avec Franck, la technique, réalisation technique. Donc, n'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien et peut-être même de plus en plus car lorsque l'on voit un certain à l'oncle... Bref, vous m'avez compris, donc nous avons besoin de votre soutien, vous téléchargez la souscription sur le site de la radio et vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez en fonction de vos possibilités. Vous pouvez consulter ma page Yves Jazz Libre sur laquelle je mets toujours les informations, les playlists, les pochettes des albums. Vous allez sur le site de la radio sur lequel vous trouverez l'agenda avec l'ensemble de la grille des programmes. Et je vous rappelle que les émissions sont réécoutables et téléchargeables pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Ceci est valable pour toutes les émissions de Radio Libertaire et que si vous avez besoin de renseignements, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. Alors ce soir, une fois de plus, une nécro, ça devient un petit peu pénible. Alors c'est un musicien qui n'est pas forcément très très connu du grand public. C'était un saxophoniste qui s'appelait Daniel Huck, qui était né en 1948 à Paris, qui a commencé d'ailleurs par le trombone pendant qu'il était lycéen à Montaigne. Et puis, petit à petit, il va croiser des musiciens aussi prestigieux que Stéphane Grappelli, Raymond Folle, Gérard Badini. Eddie Lewis et compagnie, Earl Garner, Mick Jackson, Sonny Rollins, Art Taylor, Dexter Gordon, voilà quand même très très belle fréquentation. Et donc, il a commencé par en autodidacte à partir de 1967, et il va être un amateur et il va plutôt jouer de la musique du jazz traditionnel qu'on appelle New Orleans ou Dixieland. Alors New Orleans et Dixieland, ce sont les deux mêmes musiques, mais l'un est pratiqué par les Noirs et l'autre par les Blancs. Voilà, c'est juste pour dire ce genre de choses. Et donc, il va jouer dans diverses formations. Notamment, il commence avec un groupe qui s'appelle Jazzomaniacs en 1967. Il va ensuite travailler avec Gilbert Leroux et Raymond Fonsec. D'ailleurs, nous écouterons un morceau dans un instant. Il va tourner avec Cat Anderson, le trompettiste qui a longtemps travaillé avec Duke Ellington. Il va ensuite créer, alors ça, je vais vous en parler dans un instant, les Primitifs du Futur et l'Anachronic Jazz Band, qui sont... je vais vous expliquer. Également le groupe vocal TSF, dont je vais également vous parler. Et ensuite, il va travailler aussi avec Eddie Lewis, avec sa fanfare, notamment en 1987. Pour dire qu'il a évolué du jazz traditionnel, vraiment tradit, il est parti vers d'autres choses, notamment le bebop. C'était un admirateur de Charlie Parker, mais pas que. Et donc, il a plus d'une centaine de disques à son actif, pas en tant que leader, mais en tant que participant avec beaucoup de musiciens dans divers types de formations. Alors voilà, juste quand même, je voulais pour donner un petit peu l'esprit du bonhomme. Il disait « J'ai mené et je mène toujours une vie que je n'aurais jamais pu imaginer il y a 30 ans quand je débutais. Je fais du jazz en parfaite dilettante et j'en vis. Je n'ai pas, il est vrai, de besoins excessifs. Je ne bois pas, ne fume plus. Quant aux fringues, je suis un désastre ambulant. J'ai donc assez d'argent pour m'acheter des livres et des disques qui me font envie. » Alors, il a évidemment une très bonne réputation de quelqu'un de tout à fait charmant, marrant. Il chante, il scatte, c'est aussi quelque chose qu'il aime beaucoup. Je précise juste, qu'il est mort de cette maladie assez horrible qui s'appelle la maladie à corps de Lévy, qui a emporté également Nathalie Baye récemment. Donc, voilà, je voulais donc effectivement vous rendre hommage à ce musicien qui est pas connu. Alors, je vous ai dégoté un extrait d'une émission de télévision qui date de 1974, je crois, qui est présentée par Philippe Bouvard, que j'avais envie de dire Philippe Buvard, parce que vous allez voir à quel point ce monsieur est un âne dans la présentation du titre de ce que nous allons entendre. Je vous laisse découvrir. Je sais bien que les Français n'ont jamais été forcément très très anglophones ni anglophiles, et surtout à cette époque. Maintenant, les choses ont changé, mais à ce point, c'est quand même assez terrifiant. Alors voilà. Donc, il est en compagnie de Raymond Fonsec et d'autres musiciens. Mais bon, Philippe Bavard va pouvoir vous le présenter. Et vous allez tenter de reconnaître, malgré la prononciation désastreuse de ce monsieur, le titre que nous allons écouter. C'est parti.
Une soirée avec Claude Butter, et il vient de recevoir le prix Sidney Bechet. Alors aujourd'hui, il va se produire avec un ensemble qui mérite non seulement qu'on l'écoute, mais aussi qu'on le regarde. Il y a Daniel Huck au saxo, Dan Girard au banjo, Alain Huguet au sous-bassophone, et Raymond Fonsec lui-même joue du trombone superbone, qui est un instrument nouveau que vous allez voir tout de suite en action. Et le morceau s'intitule « Everybody Loves My Baby ». Thank you.
Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, je précise que on n'a pas beaucoup l'habitude d'écouter ce genre de jazz à Jazz Libre, et je trouve que quelque part c'est un peu rafraîchissant de revenir aux racines de cette musique, parce que on l'oublie beaucoup, parce que évidemment elle s'est enrichie, elle a eu maintes influences diverses et variées depuis un siècle. Mais voilà, je trouve que c'est un petit côté rafraîchissant. Alors, je continue un petit peu la biographie de Daniel Huc, qui mérite qu'on revienne un petit peu sur son parcours. Donc, en fait, il est passionné. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement c'est un passionné de cette musique, mais qu'il est un des rares experts historiques de cette histoire du jazz, pas autant que moi, hein, mais bon, passons. Et mais principalement de cette première période d'avant-guerre, justement, enfin toute cette période jusqu'à l'avènement du bebop. Mais bon, voilà, il va trouver un premier travail comme garçon de café dans le club Jazzland, et avec sa première paye, il va se louer un alto Selmer Mark VI superbement réglé. Alors il dit, c'est Dexter Gordon qui alors était invité au Jazzland qui m'a choisi mon hanche, et Marc Richard qui m'a trouvé un bec. Et tout seul, avec l'aide d'une méthode, mais sans savoir lire la musique, il apprend dès les premiers jours à jouer Barbados de Charlie Parker. Donc voilà, il va travailler à l'oreille, il va répéter inlassablement jusqu'à temps que de trouver. Et alors, il revendique le fait d'être d'abord d'avoir la chance d'être autodidacte et affiche toujours son refus viscéral de l'école. Bienvenue au club. Je ne devrais pourtant pas trop râler contre l'enseignement, car plus il y aura de professeurs de jazz en France et plus j'aurai des occasions de travailler. Voilà, il n'empêche que... voilà ce qu'il dit, je trouve ça assez savoureux. Il n'empêche, chaque année, en privant les élèves de tout droit à l'erreur, ce sont des milliers de Coltrane qu'on assassine dans nos conservatoires. Alors ça, je trouve ça vraiment... faudrait que je relance la polémique, mais moi, ça me plaît bien. Donc, au niveau du son, alors bon, là, on l'entend vraiment dans un contexte vraiment de tous ses débuts, où il est vraiment très typé New Orleans, mais petit à petit, il va avoir un son qui va un peu s'affiner, qu'on pourrait rapprocher entre Johnny Hodges ou Paul Desmond, quelque chose un peu entre les deux, un peu sonistique par moment aussi. Bon, voilà. Et donc, il a un son très, 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 très puissant, avec beaucoup de vibrato qui va petit à petit maîtriser un petit peu plus. Alors, je vous propose maintenant quelque chose de très particulier. Il a été fondateur du groupe L'Anachronique Jazz Band, que je trouve, moi, personnellement, je vous en avais déjà parlé il y a, mais vraiment très très longtemps, tout au début de mes émissions, il y a plus de 15 ans. Cette Anachronique Jazz Band est quelque chose que je trouve particulièrement réussi. En fait, ils prennent des morceaux de jazz moderne, notamment du bebop et après le bebop, mais ils le transposent dans le style New Orleans, en tout cas traditionnel. Et je trouve que c'est très bien fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils respectent le texte à la lettre, quasiment. Il n'y a pas du tout de modification de la partition. Les arrangements sont complètement dans l'esprit du New Orleans. Et en plus, ils ont un format de longueur qui ne dépasse pas 2 à 3 minutes, ce qui est très court. Et finalement, on s'aperçoit qu'en laps de temps si rapide, eh bien, finalement, ils arrivent à dire énormément de choses. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très, très original, très gonflé. Et puis, avec une maîtrise du métier de la technique absolument fabuleuse, parce qu'il faut quand même s'attaquer, vous allez voir, ils s'attaquent même à Coltrane. Donc je trouve ça gonflé, je trouve ça très marrant, et vraiment, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Alors, je vous donne les musiciens qu'il y avait dans cette équipe à l'époque. Il y avait notamment Patrick Artero. Alors, Patrick Artero, qui est trompettiste, sa sœur est plus connue. Sa sœur, c'est la comédienne Anne Alvaro. Anne Alvaro, mais si vous savez, c'est celle qui fait qui donne des cours d'anglais, qui est actrice de théâtre dans le film Le goût des autres, et qui donne des cours d'anglais à Bakri dans ce film. Eh bien, Patrick Artero est son frère. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Philippe Baudouin, Lionel Benamou à la guitare, qui malheureusement est mort très très tôt, et il avait fait un disque absolument superbe qui s'appelait « Fruits cuits, fruits crus », ou l'inverse. Marcel Bornstein, Daniel Barda, ensuite André Villéger, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui jouait toujours avec Jacques Vidal, qui a 80 ans et qui se porte parfaitement bien. Donc Daniel Huc, évidemment, Marc Richard, Gérard Gervois, Dominique Obadia. Voilà, ça a été donc enregistré en 1978. Et on va commencer par un thème de Charlie Parker qui s'appelle « Anthropologie ». Donc voilà, il s'attaque à « Anthropologie » et comme on n'a pas trop l'habitude d'écouter ce genre de musique, eh bien voilà, on va s'appliquer à rentrer dans ce monde que je trouve plutôt rigolo. C'est parti. Thank you. Jazz Libre Radio Libertaire, donc toujours hommage à Daniel Luc. Alors, Daniel Luc, t'es un personnage très particulier qui était insaisissable et qui avait envie de faire plein de trucs dans tous les sens, qui était capable d'improviser un rap sur le conflit yougoslave, d'inviter Eddie Louis à jouer, d'inviter Slim Gaillard, de travailler avec Dominique Kravic, d'aller avec les petits loups du jazz, voilà, et de jouer aussi avec le pianiste Dave Burrell, pour des hommages à J. Errol Morton. Voilà, donc c'était un musicien, comme on dit, un peu caméléon. Et donc, voilà, on demandait toujours pourquoi il s'obstinait à pas vouloir diriger le groupe, ni de signer un disque sous son propre nom. Alors il disait, voilà, je trouve ça toujours assez étonnant, par idéologie, par conviction politique et sans doute par perversion. Je ne veux pas avoir ma boutique et renforcer ainsi l'armée grotesque des jeunes chefs d'entreprise, le compact à la main. Je comprends bien que je passe avec cette attitude de l'humilité la plus totale, je ne veux pas être chef d'orchestre, à l'orgueil le plus démesuré, il est normal qu'on fasse appel à mes talents. Mais je me refuse à un petit patron. D'abord parce que je serais un piètre leader, n'ayant ni les qualités musicales officielle entre guillemets requise, ni surtout la patience nécessaire. Ensuite, le commandement m'exaspère parce qu'il exige 10 fois plus de boulot. Enfin et surtout, je ne désire pas m'impliquer dans l'aventure du petit chef. Je préfère rester un employé. Le plus respecté possible, certes, mais un employé qui choisit à toute liberté ses patrons. À vrai dire, ce que j'aime, c'est être invité, m'acoquiner avec le plus de musiciens possible, sans exclusive, offrant la priorité à qui me plaît. Comme Eddie Lewis, à qui je dois d'avoir vécu une aventure humaine et musicale absolument irremplaçable. Bien sûr, tout cela n'est pas toujours facile à gérer, mais tellement plus agréable à vivre. Cela varie continuellement les plaisirs. Voilà, il y a un petit côté libertaire hein, chez Daniel Luc qui n'est pas fait pour me déplaire. Alors, nous continuons toujours avec... comment dire, l'anachronique jazz band. Je vous refais un petit résumé des musiciens, pardon, parce qu'il y a Philippe Baudouin au piano, Marc Richard clarinette et à l'alto, Patrick Artero à la trompette, Pierre Guiquerot trombone, André Villéger clarinette, sax ténor et également au soprano, Jean-François Bonnel clarinette, ses mélodies sax, donc le vieux saxophone en dos qui revient un petit peu à la mode, Daniel Luc donc au chant et à l'alto, François Fournet banjo, Gérard Gervois tuba, Sylvain Glevarek batterie et Goran Eriksson futabek. Il y avait quelquefois d'autres musiciens comme Lionel Benamou, Bernard Ley, Pierre Le Marchand à la batterie, Dominique Badia, je vais dire Borchain, Pierre Gosset, Francis Bourret qu'on écoute, qu'on n'entend plus, je le regrette, quel ténor magnifique, un petit côté Ernie Watts chez Francis Bourret, Didier Husneau. Voilà, donc nous allons écouter donc là une version encore du même acabit de Blue Monk de Thelonious Monk qui est tout à fait étonnante. C'est parti. Thank you. Jazz Lib, Radio Libertaire 89.4. Donc évidemment, vous avez reconnu cette. Vous avez reconnu ce fameux Blue Monk de Thelonious Monk qui est repris. Alors là, vraiment typiquement avec cette ce balancement qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans, mais qui vient des Antilles. Hein. Il y a ce côté un petit peu chaloupé qui est typique vraiment de la Nouvelle-Orléans, qu'ils ont bien intégré et que je trouve que ça fonctionne très très bien par rapport à la démarche. Et je trouve, enfin voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce groupe. C'est vrai qu'on n'en entend plus parler, c'est une démarche qui va à rebours complètement, puisqu'en général en jazz ce qu'on fait c'est qu'on prend n'importe quelle chansonnette qui date de Mathusalem ou des comédies musicales, enfin il y a vraiment l'American Songbook qui est vraiment très très fourni, y compris même maintenant des musiciens comme Étienne Guéraud qui est venu et qui reprend du Johnny Hallyday ou Étienne notamment de comment elle s'appelait cette chanteuse Gesh Patti. Donc les jazzmen peuvent reprendre n'importe quoi et puis le remettre au goût du jour. Et là, cette démarche inverse qui est vraiment une sorte de retour vers le futur, quoi. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà. Donc pour continuer sur la personnalité de Daniel Luc, qui malheureusement nous a quitté avec une maladie assez horrible, ce qu'il en fait supportait pas, c'est de s'ennuyer. Voilà, je le comprends, hein, un peu d'une certaine manière. Et en même temps, il est un peu sans filtre. Alors voilà ce qu'il dit. Dès que je m'emmerde, ça se voit. Je ne sais pas faire semblant. Du coup, quand je me lasse, je me casse. C'est physique. Je ne peux pas jouer et m'ennuyer en même temps. Je ne peux et ne sais pas faire le métier, entre guillemets, comme ils disent. Moi, je vis ma vie de musicien, tout simplement. Et il dit, Louis, ça a été pour cela très important. Il m'a aidé à comprendre qu'en musique, il ne faut jamais abdiquer de sa dignité. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je pensais pouvoir faire un petit peu de nouveauté. Mais finalement, je trouvais que le personnage était tout à fait collé, tout à fait à l'esprit de ce qu'est le jazz, finalement, et puis de ce qui constitue notre radio libertaire. Alors, on va continuer. Alors là, avec un exercice d'autant plus compliqué, qu'il s'agit d'un morceau de Coltrane qui s'appelle Giant Steps. Alors, Giant Steps, pour comprendre, c'est les marches géantes, c'est une série de... Coltrane compose ça en 1959, hein, je crois, à peu près. Hein. Et dans la session, il y a évidemment des musiciens nouveaux et puis des musiciens plus anciens, plus liés au bebop, notamment Tommy Flanagan. C'est Tommy Flanagan ou Hank Jones, je crois. Ou Red Garland, non, peut-être. Bon, je sais plus. Enfin, un des trois, en tout cas. Et visiblement, il est pas à l'aise avec le fonctionnement de la partition de Coltrane. Et on sent qu'il est un peu bridé. Ce qui veut dire qu'en 59, ce Giant Step est assez compliqué à jouer, parce que il va utiliser des marches harmoniques un peu particulières. Alors, rien de nouveau non plus, hein. La musique classique l'a fait depuis longtemps, la musique contemporaine également, mais dans le jazz, c'était un peu plus nouveau, et avec évidemment toute la virtuosité et la rapidité que nécessite le jazz, c'était encore un peu plus compliqué à ajuster. Et donc, que ce anachronique jazz band reprenne Giant Steps, qui est une sorte de pierre dans la difficulté du jazz moderne, je trouve ça vraiment particulièrement savoureux. Et vous allez reconnaître que c'est assez rigolo. Ce que je trouve intéressant dans ce groupe, c'est qu'en fait, ils n'enlèvent rien à la partition, que c'est bien joué, qu'ils le font vraiment dans l'esprit. Et je trouve que repenser des morceaux qui sont des pierres angulaires du jazz moderne, le repenser dans cette forme n'était pas forcément évident. Ça pouvait être extrêmement casse-gueule, anecdotique ou assez faible. Et en fait, là, pas du tout. D'abord parce que la qualité des musiciens est fait que voilà, ça tient la route copieusement. Et qu'ils le font avec une dextérité, une facilité, que ça tient la route et qu'en plus, sur des formats très courts, et ça permet de, comment dire, de faire vraiment les choses comme il faut. Et dans un état assez rigolo. Donc on va écouter ce Giant Steps et le blues suivi du blues to Béchette. Voilà, c'est parti. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Alors, notre invité est là, mais je voulais continuer mon hommage à Daniel Luc un tout petit peu. Alors, on va avancer parce que je vous avais prévu dans l'anachronique Jazz Band le thème de Move, vous savez, qui est issu du Nonette de Miles Davis de 1949, un morceau de Denzil Best. Qui a été le batteur des Earl Garner pendant de nombreuses années, mais je vais vous passer à propos des Earl Garner justement, une version de Misty par le groupe TSF où Daniel Luc a aussi beaucoup officié. Donc le titre s'appelle Mon Vélo. Et évidemment, c'est le fameux Misty des Earl Garner. Voilà, je vous passe ça, et puis ensuite, si nous avons le temps, nous passerons un autre et dernier thème que j'avais prévu en hommage à Daniel. Et puis ensuite, nous recevrons notre invité Olivier Huttman, le pianiste, pour son nouvel album qui s'appelle... The Following, en duo avec Lamine Sissoko. Voilà, pour l'instant, c'est parti avec Mon Vélo.
Mon vélo, quand je te vois, je me dis que t'es vraiment le plus beau. Rondeur de tête ne t'en guide donc. Le cuir de ta selle, tes chromes d'argent me donnent le frisson. Mon vélo, pédalant dans la douceur du petit matin, dans la sueur, la graisse et le goût. Cherche le plaisir des sens interdits.
Quand je sens gémir sous mon effort. Ton dérailleur se tendre ta chaîne. Je comprends soudain pourquoi je n'ai pas acheté une motocyclette.
Mon vélo, ma bécane, ma bicyclette, ma petite traîne. Si tu ne veux pas me faire de peine, viens donc balader, nous irons voir passer le Tour de France.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'en profite pour vous donner les musiciens qui ont fait ce groupe, qui a eu un certain succès, il y a notamment avec le titre « Ça va, ça va ». Il y avait Philippe Berthe au chant et à la guitare. Les deux chanteuses Dominique Vissuzen et Marinette Maignan et Jean-Yves Lacombe à la contrebasse. Il y avait un duo pendant longtemps, Asselin et Lacombe, qui avaient... Voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et donc, Daniel Luc a participé à ce groupe et dans cet album qui s'appelle Drôlement Vocal. Voilà, que je vous recommande, je trouve ça très, très frais. Et d'ailleurs, on voit dans le... que là, Daniel Luc a un peu changé son son. Il est plus proche de Paul Desmond que lorsqu'il a commencé au tout début. Bon, donc, puisque nous avons notre invité, nous n'allons pas le faire attendre. Merci, Olivier, d'être venu enfin dans nos studios pour... Ça faisait longtemps que je voulais, et puis il n'y avait pas forcément toujours les occasions. Et puis, bon, tu sais comment sont les journalistes. Il y a tellement de choses qui s'accumulent. C'est sûr. Un peu compliqué. Ouais. Plus la vie courante. Donc voilà. Donc merci, Olivier, donc pour venir nous parler de cet album, et puis peut-être d'autres si nous avons le temps.
Mais je suis très heureux d'être là. Merci de l'invitation, Yves, dans ce super lieu. Il me tarde d'échanger avec toi.
Alors, ma première question, c'est que ce n'est pas le premier album que tu fais en duo avec Lamine Sissoko. Raconte-nous un peu la genèse, comment t'es... parce qu'on est vraiment deux cultures différentes. Alors, j'ai pas tout... lui, il est africain, bien sûr, mais je ne sais plus de quel pays.
Alors, il est avant tout, il se considère comme un musicien mandingue, donc ça couvre plusieurs pays, mais lui, il est sénégalais. Il est de Ziguinchor Et il est très 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 ancré dans cette tradition des griots. Il est d'une famille de griots, donc il joue de la cora. Et un jour, out of the blue, pendant la période du Covid, alors je précise qu'il vit en Suède, si je ne l'ai pas déjà dit, les Suédois, il y avait quand même des aménagements plus souples que pour nous.
Oui, nous c'était... Bref,
passons. Nous c'est que des mauvais souvenirs, donc ouais. Moi je tournais autour de mon piano sans avoir la possibilité d'échanger avec aucun musicien, et puis comme je te dis, out of the blue est venue de Suède une demande de Lamine Sissoko, qui était à la recherche d'un partenariat musical avec un musicien de jazz. Lui, il avait déjà eu l'occasion de travailler avec des musiciens de cultures très différentes. Il a notamment un duo avec un type qui s'appelle Manish Pringle, qui joue d'un instrument traditionnel indien et qui vient d'Inde pour faire des tournées avec lui en Europe. Et il voulait donc travailler avec un musicien de jazz et... je sais pas, il avait dû étudier, écouter plusieurs pianistes, et puis pour faire court, on a commencé à s'échanger de la musique parce que moi ça m'intéressait. J'avais un passé, j'ai fait des études d'ethnomusicologie et je suis parti travailler au Ghana. Et puis j'avais pris beaucoup de distance avec ça à cause du fait que le jazz c'est pas de la musique africaine, même si on connaît la parenté. J'étais très content de me retrouver dans une situation où j'avais possibilité de faire de la musique avec un musicien africain, mais j'avais une certaine réticence dans la mesure où je voulais pas faire du néo-africain. Mais c'était pas du tout son idée, en fait, à Lamine. C'est un type qui avait envie que, justement, il y ait un peu un choc de culture. Et il m'a donné aucune consigne. La seule chose dont il m'a parlé qui était nécessaire pour moi, c'était les modes qu'il utilise sur son instrument, puisque c'est pas un instrument tempéré au sens occidental, mais c'est néanmoins, il a une cora chromatique, ça lui permet de s'adapter à tous les, enfin de jouer sur le même instrument tous les modes qu'il utilise. Il utilise 5-6 modes principaux et il peut faire des variantes avec ça. C'est un instrument qui a 24 cordes. Bref, je lui ai dit, je vais pas faire de la musique africaine avec toi, mais en revanche, envoie-moi des morceaux, et puis peut-être je t'en enverrai, et puis je vais jouer dessus, comme un musicien de jazz, mais évidemment pas post-bop ou des choses comme ça. J'ai essayé de trouver un langage jazz, mais avec tous les paramètres qu'il y a dans le jeu du musicien de jazz actuel, c'est-à-dire notamment le fait de ce qu'on appelle dans notre jargon « jouer out », c'est-à-dire sortir un peu des harmonies, parce que la musique qui est jouée par la cora, la musique mandingue, c'est très cadré sur le plan, c'est un mode, et puis on n'en sort pas. Et il a aimé cette juxtaposition, et on est allé de plus en plus loin dans l'échange sur le plan de la musique, lui me fournissant de la matière, et moi lui ayant certains types de demandes par rapport à des tourneries, par rapport à quelle note mettre dans tel ou tel accompagnement. Finalement, on s'est tissé un langage qui est pas un langage de fusion, mais plutôt un langage de qui nous est propre. Il joue comme il est, et puis moi, je joue comme je suis, et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Et je pense que c'est un projet qui est intéressant à cause de ça, je le dis en toute modestie, bien entendu, parce que à chaque fois qu'on joue, je vois des gens... Je dois dire que c'est un concept qui plaît beaucoup aux gens qui sont pas nécessairement des spécialistes ni de jazz ni de musique africaine, mais des gens curieux. Et je crois que j'ai jamais vendu autant de disques après un concert qu'avec Lamine, notamment à Marciac, c'était complètement dingue. Et puis encore récemment dans les festivals, les gens n'ont pas besoin de code pour écouter cette musique, puisqu'en fait il y en a pas. Donc c'est l'échange de nos deux expériences.
Alors moi je trouve ça aussi intéressant. Je dois dire que je suis aussi musicien, mais enfin pianiste, mais
bon, je le sais.
Mais donc je suis toujours aussi un peu réticent historiquement pour peut y avoir des choses un peu ratées. Et là je trouve que c'est parfaitement réussi, justement parce que comme tu le dis, ça n'empiète pas l'un sur l'autre, mais en même temps, il y a une unité.
Écoute, je te remercie. Ouais.
C'est comme une mayonnaise, quoi. Ça a vraiment pris, et je trouve ça plutôt sympa. Alors, on va évidemment écouter, mais J'ai toujours pensé, tu vas me dire si je me trompe, mais on sent dans ton jeu de piano du McCoy Tyner. Il y a quelques...
Oh bah oui, oui. C'est... Ça, je serais carrément malhonnête de dire le contraire.
Alors bon, moi, ça fait partie des musiciens qui m'ont énormément influencé, parce que c'est vraiment une... pas une révolution, mais c'est, je dirais que c'est une autre voie que celle que prit Bill Evans, par exemple. Hein, qui...
Ah oui. Non, mais c'est vrai que j'ai aimé chez McCoy cette espèce... bon, évidemment, le langage harmonique qu'on connaît, qui transcende, ou plutôt qui apporte quelque chose d'autre que le langage bop et post-bop. Et aussi parce que je trouve que la musique modale permet... Et puis, par extension, il n'y a pas que McCoy, il y a aussi Herbie Hancock. C'est deux manières de concevoir l'harmonie que je trouve super... enfin, sans limite, en fait... évidemment, même si ça date des années 60, néanmoins, ils ont élaboré, enfin, le début de leur travail, ils ont élaboré chacun à leur manière un langage harmonique qui est toujours hyper moderne, pertinent, et finalement, je le dis d'une manière très simple, c'est vraiment les McCoy en premier, parce que c'est celui que j'ai écouté le plus, puis plus tard Herbie, c'est les deux pianistes qui me touchent le plus.
Ben oui, ben, bienvenue au club, moi aussi, j'étais très longtemps un fan de Bill Evans, jusqu'à encore une vingtaine d'années, et puis j'avoue que j'ai relaissé tomber pour revenir sur Herbie, qui pour moi est une parfaite osmose entre la modernité, la science, et puis le swing, quoi, le côté noir, black, qui est aussi chez McCoy. Et puis, bon, moi je trouve chez McCoy, ça n'a pas pris une ride, quoi.
Absolument, je pense que c'est... pour le moment, même si on peut s'extasier à raison sur des musiciens novateurs comme par exemple Sullivan Fortner ou Jason Moran, qui sont pour moi des pianistes qui ont vraiment apporté quelque chose depuis cette époque-là, je pense que ça reste indépassable, McCoy et Herbie.
Oui, oui. Moi, j'avoue que bon, j'écoute beaucoup de choses. Enfin, bon, je vais pas parler de moi en outre mesure, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas une révolution, il y a une évolution.
Exactement, oui, oui. Ouais.
Eh bien, on va écouter le premier morceau, après on va... Alors, si, quand même, il faut préciser qu'il y a un chanteur, Eric Bibb, qui est invité pour quelques titres, bon, on verra après. On va commencer par le premier, que tu vas nous donner quelques explications, il s'appelle Klezmandingo.
Oui, bah justement, c'est en fait, c'est un peu le hasard qui a fait ça. Je me suis aperçu qu'il y avait un mode commun entre, peut-être à une note près, on va dire, pour être 100% honnête, un mode commun entre la musique klezmer. Donc, pour les gens qui savent pas nécessairement ce que c'est qu'un mode, c'est une succession de notes. C'est ce qu'on appelle aussi une gamme, mais c'est pas nécessairement une gamme au sens occidental, parce que ce sont pas des notes qui sont forcément rapprochées. Mais c'est une sélection de notes, et on appelle ça un mode. Et je me suis aperçu qu'il y avait dans la musique klezmer, qui est donc la musique des juifs ashkénazes, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et de Russie, il y a un mode commun avec la musique mandingue. Donc, je me suis aperçu de ça en notant les modes que me donnait Lamine sur sa kora. Mmh. Et je trouvais que c'était intéressant de prendre conscience de ça pour faire un morceau avec une espèce de clave klezmer, mais avec la kora. Et puis, ça a débouché sur un truc... inclassable, mais c'est une manière de résumer nos origines à chacun et puis notre passé musical.
Juste une question à propos de la kora, si tu sais, il peut jouer dans toutes les tonalités ou c'est une tonalité...
Alors non, il peut pas jouer dans toutes les tonalités au sens justement de... Il va pas nécessairement jouer en do dièse, ré
ouais,
dièse. C'est pas comme ça que ça se passe. Il va jouer sur des modes, donc, qui n'ont pas forcément une note, racine, une note root.
D'accord.
C'est une succession de notes, mais on peut, par exemple, il a un mode qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle le ré dorien, c'est-à-dire la gamme de do majeur. Et en fait, on peut choisir n'importe quelle note comme note de tonique, que note de basse sur ce mode-là.
D'accord. Eh bien, on va l'écouter. C'est parti.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, avec Olivier Huttman dans nos studios, que j'ai le plaisir de recevoir pour son album The Following en duo avec Lamine Sissoko. Alors, petite remarque personnelle, le son est très bon, bien enregistré, ce qui n'est pas forcément évident. Parce qu'il y a beaucoup d'harmoniques dans tous les sens et je pense que ça participe aussi de la qualité du propos, parce que si c'est raté de ce côté-là, ça fout tout en l'air.
C'est sûr que deux instruments à cordes et un super tempéré comme le piano, et puis un avec plein de résonance, plein de bruit, mais dans le bon sens, dans le sens noble du terme. Pour les Africains, un son propre, c'est pas un son, enfin un beau son, pardon, c'est pas un son propre, quoi. C'est un son qui est chargé de densité sonore. Donc oui, effectivement, c'est difficile de mélanger les deux. Alors je dois dire que depuis longtemps, je travaille avec un ingénieur du son qui s'appelle David Drussan, qui a un studio à Maurepas. Son activité principale, c'est qu'il travaille beaucoup pour la télé, mais il a une oreille terrible. Et ça fait deux fois que, et je l'ai fait avec d'autres disques, que je mixe avec quelqu'un d'autre, et pour avoir deux oreilles, et puis aussi parce que les circonstances font que c'est comme ça. Et je mixe avec un vieux collègue, mais je le dis avec beaucoup d'affection, Gilles Douillet, avec qui je jouais dans le groupe Chute Libre, un groupe jazz-rock des années 70.
Ça ne rajeunit pas.
Et Gilles fait énormément de musique à l'image, et il a un studio de mix, et j'adore mixer avec lui parce qu'il fait des propositions, et c'est vrai que c'est pas facile, mais comme on était déjà, on avait l'expérience d'un premier disque de Cora Piano, on est reparti de ça pour mixer cet album-là.
Alors il y a toujours la question piège à Radio Libertaire que je pose à tous les musiciens. À chaque fois, les réponses sont plus ou moins variées. Donc c'est qu'est-ce que ça fait de se réécouter d'une manière générale ?
C'est une bonne question et c'est une question, je dirais même.
C'est pas une question piège, hein, c'est juste.
Non, mais c'est une question. Effectivement, les gens s'intéressent pas nécessairement à cet aspect de. Alors moi, je vais être totalement cash, je déteste me réécouter, mais j'ai horreur de ça. Mais, de temps en temps, quand je réécoute certains disques ou certains morceaux, je déteste pas. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que les disques qu'on a fait avec Lamine, ces deux disques qu'on a fait, vu qu'on était responsable seulement à deux de ce qui allait sortir, on a eu la possibilité de reprendre certaines choses. On a fait les deux disques en deux jours d'enregistrement. Mais on avait la possibilité de reprendre certaines choses. Et puis après, il y a le processus qu'on appelle l'editing, qui permet éventuellement de prendre une prise d'une improvisation d'un morceau sur une autre prise du morceau, et puis les merveilles de la technologie nous permettent de faire des disques dont on n'a pas honte. Et c'est vrai que il fut un temps où, enfin d'une manière générale, j'aime pas me réécouter, j'aime pas du tout, j'entends que des défauts, quoi.
Mais il n'y a pas de défauts.
Pour moi, si, il y a forcément des défauts de mise en place, donc de placement rythmique, mais ça c'est des choses qui arrivent quand on a éventuellement un souci qui dure une microseconde sur le plan technique, qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voulait faire. Donc ça, je l'entends. Et puis aussi, très souvent, sur le plan mélodique, je ne suis pas content de mes improvisations.
Allons.
Non, c'est le triste sort du musicien qui joue en concert, qui enregistre, et on n'est pas... Je me souviens, je peux parler de ça, ça ne sera pas trahir quelque chose, mais je me souviens qu'il y a très très longtemps, j'avais enregistré dans un studio où l'ingénieur du son m'avait raconté qu'une chanteuse très très connue avait enregistré sa voix sur 32 pistes différentes, et qu'il avait fallu jongler d'un mot à un autre pour sortir un disque et donner l'illusion qu'elle chantait correctement. Alors nous, on n'en est pas là.
C'est pas vrai.
Mais si, je te dirai hors antenne de qui il s'agit. Et on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire des sélections.
Cela dit, bon, c'est pas mon pianiste classique préféré, mais le Canadien spécialiste de Bach,
Gould
faisait ça aussi. Hein. Il prenait.
Oui. Bah lui, c'était un dingue de perfectionnisme, mais en même temps, moi, je trouve ça super parce que c'est la différence entre faire un concert live et enregistrer un disque. Un disque, tu peux te permettre, grâce à la technologie, c'est pas de tricher, mais de choisir ce qui te plaît le plus à toi, ce que t'as envie de présenter au public, et la technologie est notre allié dans ces cas-là. C'est vraiment la différence entre un disque et du live. Même si je fais des disques live, alors là, je ne peux rien changer.
Ben, on aura peut-être le temps justement d'en parler, parce que tu as joué avec beaucoup de musiciens prestigieux. Et puis, il y a le Barney Whelan Quartet qui est ressorti il y a quelques années, là, ce double album très très beau. Bon, on continue sur The Following.
Avec plaisir.
Et on va écouter un deuxième titre. Qui s'appelle Korakuma, donc là qui a un morceau de Lamine. Et donc on dit Lamine ou
Lamine.
Lamine. Bon, allez, c'est parti, Franck.